on était arrivé hier, le point crucial sur la première dimension de la personne. Mon âme humaine, c'est ma substance. Elle est créée dans l'embryon. Positiviste, on ne parle plus de l'âme. Depardieu. C'est très important. Je mets ça entre parenthèses. J'ai parfaitement le droit de me poser cette question. Si mon âme est créée par Dieu, mon autonomie est sacrée. Parce qu'elle est directement dépendante de Dieu. Et le philosophe découvrira ça en découvrant l'existence de Dieu. Mais tant qu'il ne l'a pas découvert, il doit rester uniquement à dire « Mon autonomie, c'est mon âme spirituelle. » L'âme est source de vie et source d'être. Alors, deux petites questions importantes. Ce double mouvement de l'expérience au principe et du principe à l'expérience ressemble étrangement à ce que Platon appelait déjà la dialectique ascendante et descendante. C'est très juste. Ressemblance est logique. Et c'est toujours quand il y a un point de contact avec celui qu'on dépasse. C'est là où toutes les erreurs se font. Très vrai, le double mouvement. Et Platon parle alors de participation. C'est ça qui est intéressant. Et Aristote parle de causalité. Voilà l'affrontement. La participation n'implique pas le jugement. D'existence par elle-même. La participation implique un ordre formel. Toute la différence entre Platon et ce que nous avons dit, c'est que tout repose sur le jugement d'existence. L'induction repose sur le jugement d'agir. Puisque c'est le principe propre de ce qui est en tant qu'il est, qu'on découvre, présuppose le jugement d'existence. Platon, lui, le fait au niveau des formes, donc au niveau de la participation. C'est dans ce sens-là que Platon est merveilleux. Il dispose. Platon, tout le monde le comprend. Mais c'est au moment de savoir si Platon est dans la vérité ou Platon n'est pas dans la vérité qu'il y a l'affrontement. Ça commence à grincer. La platonicien dit, c'est beau, donc c'est vrai. Les aristotéliciens disent, c'est très beau, Platon. C'est très séduisant. Est-ce que c'est vrai? Platon et la vérité, je les aime tous les deux. Mais la vérité plus encore. Alors à ce moment-là, je salue la participation. Pour être poli pour Platon, je salue la participation. Je dis, attention, c'est la causalité qui touche l'être existant. Là, il y a quelque chose donc de très intéressant, l'affrontement. Oui, je vous en ai pas parlé exprès. Ensuite, nota bene, attention, parallélise avec la pensée. Vous voyez, Platon découvre magnifiquement le mouvement de l'intelligence. Mais n'oublions pas que, au-delà de ça, les idées sont innées. Donc il n'a pas besoin du jugement d'existence, puisque les idées sont innées. existent par Dieu dans mon esprit. Donc elles sont vraies. C'est l'ontologisme dans toute sa force. Et c'est là où Aristote dit, mais est-ce que les idées existent ? Pour Aristote, le jugement d'existence remplace les idées innées. Si je pousse la comparaison. Et le jugement d'existence est nécessaire pour comprendre que ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce que je veux, c'est connaître la réalité existante. C'est très, très beau de dire que j'ai des idées innées, que tout ce que je saisis, du reste, ce que Platon dit, on lui parle du divin Platon. Platon, c'est un prophète. C'est le grand prophète des néoplatoniciens. De sorte que ces idées innées viennent de Dieu, elles sont vraies. Et donc, la dialectique ascendante et descendante se fonde sur ce jugement d'existence. La création par Dieu des idées. Si je dis ça c'est très beau, est-ce que c'est vrai ? Je mets tout Platon en interrogation. Et est nécessairement un prophète. Est-ce que toutes ces idées viennent nécessairement de Dieu ? Vous avez dit au dernier cours que mon je suis. Accepte mon je suis, c'est une expérience. Avez-vous l'expérience directe de votre âme ? J'ai l'expérience de mon je suis. Du moins, j'espère que vous l'avez aussi. Est-ce que vous avez l'expérience directe de votre âme ? Ou est-ce que vous êtes obligé d'induire l'âme ? C'est très bien, j'ai une certaine expérience de mon âme, mon intériorité, c'est mon je suis. C'est par mon je suis que je remonterai à mon âme. Mais l'âme est source de mon je suis, c'est par mon je suis. Mais pour le psychologue, mon moi c'est mon âme. Et ça, c'est le psychologue. Mon moi n'est pas mon âme. Mon moi est coloré différemment, suivant que je me suis levé du pied droit ou du pied gauche. J'ai vu qu'il y avait un beau rayon de soleil. S'il y avait un brouillard humide et froid. C'est mon âme. Comment fait du « je suis mon âme ». Vous avez une vision platonicienne. Ah, tout à fait d'accord, ça. Mais ça ne supprime pas mon « je suis ». Mon « je suis » n'est pas platonicien.
L'unité de l'âme et du corps, vous le saisissez
est dans votre je suis. Merleau-Ponty, le premier Merleau-Ponty. Merleau-Ponty dit l'âme n'existe pas. Parce que chaque fois que je réfléchis sur ce que je suis une réalité complexe. Je suis, c'est complexe. Je suis dans mon corps, dans mon regard. Je suis, quand je touche, je suis au plus intime de mon âme, quand j'aime, de manière spirituelle, quand je dis « tu es mon ami ». Et Merleau-Ponty souligne, tout le temps, je saisis quelque chose de complexe. Je n'ai aucune expérience de mon âme, donc elle n'existe pas. Et à ce moment-là, ça troublait énormément d'étudiants disciples de Merleau-Ponty. On était au seul choix à ce moment-là. Le seul choix était à Étiole. Et il y avait constamment des étudiantes et des étudiants de Merleau-Ponty qui venaient poser la question. Est-ce que vous acceptez encore que l'âme existe? Parce que pour lui, la réalité, c'était ce que je pouvais expérimenter. Vous n'avez jamais expérimenté l'âme séparée, sauf dans vos cauchemars, sauf dans vos rêves. On a tous fait cette expérience. On était platonicien dans ses rêves. Et c'était quelquefois de tragique. C'était le drame. Du gros chien qui courait après l'âme séparée. Alors, vous voyez bien que le « je suis » correspond à une expérience interne, complexe. Dans mon je suis, ce n'est pas ma personne, mon je suis. Parce que je ne saisis pas le principe. Ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est de voir qu'ayant saisi la substance, ayant saisi que mon âme, c'est ma substance, je saisis mon âme informant le corps. Avec le corps, n'ayant pas du tout d'existence propre. Mon âme existe dans mon corps, et mon corps existe par mon âme. Et donc, ils sont un dans la réalité existentielle. Mais je distingue, au niveau des principes, substance et âme. Et je vois que l'âme, c'est bien ma substance, parce qu'elle est principe de vie, et que pour moi, mon être et ma vie ne font qu'un. Ne font qu'un existentiellement. Et donc, il y a un unique principe de mon être et ma vie, c'est mon âme. Entre l'âme et la substance, c'est que l'âme est saisie comme principe propre du vivant. Tandis que la substance est saisie comme principe propre de ce qui est. Or, pour moi, ce qui est et le vivant, c'est la même réalité. Un cours de métaphysique, je ne dis pas aux étudiants « laissez à la porte le cours de la philosophie du vivant ». Non. C'est « deux niveaux de pensée différentes. Mais dans la réalité, l'homme, c'est celui que regarde la philosophie du vivant. L'homme, c'est celui que regarde la métaphysique. C'est la même réalité. C'est six ou deux aspects différents. Avec la distinction formelle du principe propre du vivant, du principe propre de ce qui est. Alors, continuons. Oui, qu'on frôle Platon. Que Platon soit là, très propre, très proche, c'est normal. Aristote a inventé un mot pour se séparer de Platon. Le Totienein. Là, vous comprenez pourquoi Aristote a inventé ce mot. Le Totienein, c'est l'intelligibilité de la détermination de la forme. Pour Platon, l'intelligibilité de la forme, de la détermination, c'est son exister. C'est propre de l'ontologisme. On ne fait pas la distinction entre l'intelligibilité et l'exister. Et pour bien distinguer les deux, Aristote a inventé ce mot. Le contenu intelligible. Fondamental et premier, s'acuité. Et le mot cuidité, Sartre l'emploie. Le mot cuidité provient d'Aristote, Totienein. Quod quid erat esse. Comme c'est un peu trop long. On simplifie et on dit quidité, quiditas. Et dans le latin classique, chercher quiditas, c'est affreux. Ça n'existe pas dans le latin classique, quidité. Substance existe, mais pas quidité. Forme existe, mais pas quidité. Quidité, c'est le langage philosophique face à Platon pour le critiquer. C'est toujours intéressant de voir d'où vient l'invention de ce mot pour mieux montrer l'erreur de Platon. Aristote met en pleine lumière l'intelligibilité de tout être déterminé, de tout être existant. Alors, continuons. Bon, je suis éclairé par la substance propre de ce qui est en tant qu'il est. sans la matière. De sorte que elle est bien formellement individuée par la quantité. Mon âme individuée, je suis. Substance individuée. Donc, voyez, quand j'ai l'expérience première du « je suis », que nous avons tous, quand vous dites « je suis », vous le savez bien ce que c'est. Je suis, je ne suis pas toi. Grâce à Dieu. Allons jusqu'au bout de la sincérité, n'est-ce pas ? De Bordeaux, je suis. C'est vrai, c'est tout le je suis. Euphorique, agonisant, je suis. Toutes les modalités du je suis. Dans ça, l'expérience, j'ai découvert que le je suis. Je suis indépendamment de mon corps. La mère le pont dit raison. La conscience que j'ai de mon je suis, il est dans mon corps. Et mon corps est une réalité quantifiée. C'est pour ça que c'est très pesant. Une réalité qui prend de la place. Ma place que tu ne peux pas prendre. C'est là ma propriété tout à fait spéciale. C'est la première affirmation que je fais. Ma personne implique ce n'est pas un principe, c'est la manière d'être d'un principe. C'est quelque chose qui existe. Et si je parle de ma personnalité, je vais préciser le go et le quod de la personne. Ce que Boès faisait, ce que Thomas d'Aquin fait aussi. ça, parce que constamment, vous voyez, personalitas et personne. Personalitat, c'est l'abstrait de la personne. C'est ce par quoi la personne est personne. Alors évidemment, dans le langage courant, quand on parle de personnalité, on avait de l'abstrait le concret. Ma personnalité. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites votre personnalité, mon éminence, votre personnalité? La personnalité, vous voyez, c'est très curieux parce que le mot personnalité vient de personne, comme humanité vient de homme. Humanité, c'est l'abstrait de homme, ce par quoi l'homme est homme, à la différence du singe. Ce par quoi l'homme est homme, ce par quoi l'homme est homme, c'est son âme spirituelle. Et homme tout court, c'est l'âme et le corps, concret. Homme est concret, l'humanité est abstrait. Il se concrétise dans un journal. Mais c'est abstrait le mot humanité. Mais le mot humanité voudrait dire que ce que j'écris dans ce journal est toujours conforme à l'homme. C'est ça que ça veut dire, hein, humanité. Ce par quoi l'homme est homme. Alors, le mot personnalité, ce par quoi la personne est personne. Le quad, la personne, ce qui est ma personne. Le quad est concret, le co est abstrait. C'est un principe. Ce par quoi, c'est le fruit d'une analyse. Je dis ça parce que cette distinction-là, vous la retrouvez dans Thomas d'Aquin, elle vient de Boèce. Elle est le passage du concret à l'abstrait. Alors, constamment, dans le langage courant, quand vous dites « Ah, il a une grande personnalité. » Le Saint-Père, oh, il a une grande personnalité. En réalité, on devrait dire que c'est une grande personne. C'est une personne qui a une dignité unique. Alors, le mot « personne » implique donc cette autonomie à la fois dans son être. Caractérise l'âme, c'est d'être spirituel. l'âme humaine, c'est d'être spirituel. Donc, cette autonomie de la personne, c'est pas seulement une autonomie dans l'ordre de l'être, c'est une autonomie dans l'ordre du développement de la vie. C'est une autonomie qui permet à ce vivant de s'orienter et de grandir dans l'orientation qu'il a choisie. La personne implique un état de vie. Vous voyez, cette personne a 23 ans. Elle est comme un homme qui a déjà une maîtrise parfaite de lui. Quand vous diriez au contraire de quelqu'un d'autre, il a 23 ans, mais il a encore la personnalité d'un adolescent. Dans le langage courant, nous voyons qu'on devient une personne. Alors vous voyez, cette chose très curieuse qui est impliquée dans le point de vue de la personne et qu'il faut expliquer philosophiquement, c'est que la personne est à la fois un absolu et à la fois elle implique une croissance. Une croissance dans l'ordre de la vie spirituelle. Pas une croissance dans la vie corporelle. On peut atteindre sa taille. Ou même atteindre sa taille avant d'avoir l'âge de sa taille. Il a grandi comme une perche. À 16 ans, il a sa taille, il ne grandira plus. Parce que s'il continue de grandir, ça deviendra dangereux. Il faudra changer la taille des portes. Autrement, il se coupera toujours le poil de front. C'est pas la grandeur physique. Non. Elle est impliquée, mais c'est pas elle qui fait la personne. C'est sa détermination dans l'orientation de sa vie. Et je ne regarde pas le point de vue moral ici. On pourra préciser ensuite, mais je vois la manière dont il se domine, la manière dont il est capable d'orienter toutes ses forces vitales vers le but, vers la fin qu'il a choisie. La personne implique ce dominium sur lui-même, cette maîtrise sur soi, ça fait partie de l'autonomie. Et Thomas d'Aquin définit toujours la personne par ce dominium. Cette possibilité qu'on a de développer le capital vital qu'on a. Ce capital vital, je l'oriente dans tel sens. Je l'oriente plus ou moins bien, mais je l'oriente. Dominium. Et si je ne l'ai pas du tout orienté, si je ne le domine pas du tout, on dira... Il n'est pas encore une personne. Il a une croissance très impétueuse dans divers sens. Il n'y a pas d'unité. L'autonomie se traduit dans l'unité de toutes ces virtualités. niveau psychologique, va impliquer ce point de vue de l'autonomie psychologique. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement dépendant de son milieu. Il émerge. Tandis qu'au contraire, quand il est totalement dépendant de son milieu, de son journal, au plan politique, il reflète son journal. Et tous les matins, il a besoin de savoir ce qu'il est comme citoyen devant tel événement. Le journal le détermine. Il manque d'autonomie politique. Il a une dépendance radicale. Mais l'autonomie joue à des niveaux différents. Et ça, c'est très très important pour comprendre la dignité d'une personne. La personne implique une dignité par son autonomie. Ce n'est pas n'importe quelle autonomie. Alors là, il y a un jugement de valeur qui est très important pour comprendre ce qu'est la personne. Et c'est ce jugement de valeur qui fait partie essentielle de la personne. Quelqu'un qui a une grande autonomie, mais qui ne sait pas pourquoi, est un grand gamin. Il n'est pas une personne. Il est une partie d'un tout. Et s'il n'est pas un tout,